La barque aux papillons, de Jean-Claude Delagneau, avec son aimable autorisation. Scène 1.
Je m'appelle Antonio, et mon père Ramon Esteban José Bolívar de Mariposa. Il est pêcheur sur le fleuve Madeira, et sa guitare est connue de tous les oiseaux de la forêt. La saison des pluies est commencée, et depuis 2 jours, il pleut sans interruption. Le fleuve Rio Madeira est déjà impraticable. Une pirogue, même avec un bon rameur, serait vite emportée dans les rapides. Et après, il y a les grandes chutes, les cachoeiras de San Antonio. Et alors là... Ma mère, c'est Maria de Socorro, et ma sœur s'appelle Consuelo. Toutes les deux, elles aiment bien la saison des pluies.
En janvier, quand il commence à pleuvoir, notre père reste à la maison toute la journée. Je le regarde aller, venir, s'occuper à 1000 travaux. Il y a toujours à faire chez nous, depuis le toit de roseau qui fuit, jusqu'au pilotis de bois pourri qui soutiennent le plancher et qui bouge quand l'eau monte et ramollit le sol. Il y a aussi les outils à réparer, des filets pour la pêche à fabriquer, une machette à aiguiser. Parfois, il s'arrête de travailler et regarde les nuages noirs comme la suie qui crève au-dessus de la forêt. Il écoute le ruissellement infini des gouttes sur les feuilles, les branches, le toit. Il suit des yeux la chute toujours recommencée d'une perle de pluie au bout d'une brindille. Alors il tend le bras, prend doucement sa guitare, la serre contre lui posée sur son genou et la fait chanter du bout de ses doigts. Et le chant de la pluie s'unit au chant de la guitare. Et le ciel tout entier et ses nuages de suie, et la forêt entière toute grouillante de vie, et le fleuve immense, depuis les montagnes rocheuses où il prend sa source dans le couchant, jusqu'à l'infini de la grande plaine de forêt vierge à l'est, où il va se jeter dans l'Amazone. Toutes les musiques s'unissent dans une grande symphonie sauvage, douce et triste.
Moi aussi j'aime la saison des pluies parce que pendant 3 mois, mon Ramon reste à la maison. De Noël à Pâques, il tombe sur nous toute l'eau du ciel. Quand le Rio Madeira est en crue, c'est un océan de boue et il devient trop dangereux de s'y aventurer. Ce ne sont que tourbillons couleur de bronze d'une violence inouïe. Même les garimpeiros, qui cherchent de l'or dans le sable du fond, abandonnent leurs barges de ferraille, leurs pompes, leurs tamis et leurs folies.
Moi, c'est Ramon Esteban José Bolívar de Mariposa. Je suis pêcheur sur le fleuve Madeira. J'ai une femme, 2 enfants. J'ai construit pour les abriter une petite cabane de bois, de terre et de roseaux. J'ai choisi une colline près du fleuve. J'ai défriché une clairière pour la cabane et le jardin, et voilà. Ma femme, Maria de Socorro, fait pousser des ignames, du manioc, des pommes de terre, du maïs et du tabac. Elle s'occupe aussi des poules, des chèvres et des enfants. Mais surtout, elle cause, presque continuellement. Je n'écoute pas toujours ce qu'elle dit. On dirait les cris des jacamars verts, ces perroquets qui vivent en bande dans les grands acajous et qui se chamaillent du matin au soir. Au début d'avril, le fleuve regagne son lit et je peux enfin prendre ma pirogue, mes filets, mon harpon et retourner attraper des poissons. Les grands pirarucu argentés aux écailles ourlées de rouge. Je prends aussi ma guitare dans la barque. J'aime la faire chanter le matin quand la forêt s'éveille. Je réponds au courroubine, l'oiseau qui annonce le jour. Accompagné par la voix grave du crapaud, je la fais aussi chanter le soir, dans la nuit couleur de cendre. Quand il sera plus grand, Antonio, mon fils, viendra avec moi sur le fleuve. Je lui apprendrai à pêcher et à jouer de la guitare. Mais pour le moment, il faut attendre la fin des pluies.
Scène 2.
Tous les ans, au dernier jour de mars, le fleuve regagne son lit et Ramon Esteban le pêcheur reprend sa pirogue et s'en va jeter son filet.
Regardez, il y a 2 grands papillons bleus qui se poursuivent devant la maison. C'est le présage d'une bonne pêche.
Une bonne pêche, une bonne pêche. Tais-toi, idiote. Tu as déjà vu une bonne pêche les premiers jours d'avril? dans cette eau boueuse? Tu ne pourrais pas attendre encore une semaine, non? Il y a tant de travail au jardin. Toute cette terre a remué pour semer le maïs et les haricots. Au lieu de cela, tu vas rêvasser dans ta barque, fainéant. Et les enfants, qui les nourrit? Moi, toujours moi.
Père, voilà le harpon. Je le mets dans la pirogue avec les rames et le filet.
Et la guitare? Il faut apporter la guitare. Ce soir, si la pêche a été bonne, tu joueras un air joyeux sur le fleuve pour nous le dire. Tu sais celui que tu m'as appris, teko teko teko, petit nid d'orange douce. Quand j'entendrai cet air, je saurai qu'il y a un grand pirarucu dans la barque.
Si ce n'est pas malheureux, me laisser seul toute la journée avec les enfants et le travail.
Je suis grand maintenant. Je pourrais bien partir à la pêche, moi aussi. Je t'aiderai à sortir le grand pirarucu et à le hisser dans la barque.
Tu te ferais plutôt mordre les fesses par les piranhas et tu ne servirais à rien dans la pirogue.
Plus tard, Antonio, plus tard. Quand tu seras encore un peu plus grand, c'est promis.
N'oublie pas la calebasse où je t'ai préparé ton repas. Deux galettes de maïs et une cuisse de poulet. Tu vois, je suis trop bonne pour toi, Ramon. Et toi, tu me laisses, ingrat. Tu ne m'aimes pas. Tu ne nous aimes pas. Regardez-le, ce père paresseux, qui va se promener sur le fleuve pendant que sa pauvre femme va trimer tout le jour dans la maison et le jardin.
La barque a quitté la rive maintenant. La rame plonge joyeusement dans l'eau. Flic, floc, flic, floc. Un fin sillage se dessine sur la surface ocre où flottent encore des troncs et des branches, vestiges de la crue. Père s'éloigne en direction de l'île, très loin vers le nord, au milieu du rio Madeira dont on ne voit pas l'autre rive. Il rame vite, Ramon le pêcheur, et autour de lui volait un essaim de grands papillons morpho, avec des ailes grandes comme la main et bleues comme le ciel après la pluie.
Le voilà maintenant dans un courant qui le porte, le conduit droit sur l'île. Alors, il pose ses rames au fond de la barque. Il prend sa guitare et sa musique s'élève, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Et sa musique l'enveloppe, le berce, l'emporte avec le courant, plus loin dans le fleuve, dans la lumière dorée du fleuve. Et sa musique autour de lui fait danser les grands papillons bleus.
Scène 3.
Le soir, Ramon rentra avec un pirarucu presque aussi grand que lui. Comme c'est le premier de la saison, on ne le vendra pas au village. Je le découperai en tranches qui seront salées, séchées et fumées, enroulées dans de grandes feuilles de bananier. Les morceaux pourront se conserver longtemps et deviendront des ragoûts délicieux. Avec les écailles les plus belles, les plus grosses, rouges et argent, je ferai des colliers que j'irai vendre au Tchitchik, le comptoir flottant. Je n'aime pas quand tu t'en vas longtemps sur le fleuve, Ramon. Je m'inquiète. Mais quand tu ramènes un beau poisson comme aujourd'hui, j'ai envie de chanter et de danser.
Mais quelquefois, Ramon ne rentrait pas le soir. Il débarquait sur l'île, au milieu du fleuve. La nuit, je pouvais voir au loin la petite lumière de son feu. Je restais éveillé dans mon hamac le plus longtemps possible. Je prêtais l'oreille en attendant que la brise nocturne m'apporte la musique de sa guitare. Oh, comme j'aimerais être avec lui, là-bas, enroulé dans ma couverture. Au-dessus de nos têtes, très haut entre les feuilles des arbres, je regarderai les étoiles danser. Je regarderai les étincelles du feu monter avec la fumée, comme autant d'étoiles nouvelles.
Scène 4.
Et les années s'ajoutent aux années.
Et le niveau du fleuve monte et descend au rythme des pluies.
et Antonio et Consuelo grandissent.
Maintenant, mon père Ramon accepte souvent de m'emmener avec lui dans sa barque et il m'apprend tout ce qu'un pêcheur caboclo doit savoir. Nous allons souvent pêcher ensemble dans les bras du rio qui s'enfonce dans la forêt. Là où la terre et l'eau se mêlent, où la vie grouille partout, où le poisson côtoie l'oiseau, le serpent la mygale, le grand caïman jacaré, le colibri minuscule et précieux.
Tu es devenu adroit et fort, Antonio. Tu rames aussi bien aussi longtemps que moi. Tu harponnes comme moi le grand pirarucu aux écailles ourlées de rouge. Le fleuve n'a plus de secret pour toi. Et quand tu joues de la guitare, les grands papillons bleus dansent autour de toi.
Est-ce que tu vois, Ramon, que ta femme vieillit, qu'il est de plus en plus difficile pour moi de gratter la terre du jardin pour y faire pousser les légumes? Les jambes, les mains, le dos me font mal quand je marche, quand je travaille et même quand je dors. Mais toi, Ramon, tu es toujours sur le fleuve, toujours parti et toujours plus longtemps.
Ses cheveux et sa barbe sont devenus couleur d'écume. Il parle de moins en moins et il est devenu très maigre et très voûté.
Il ne ramène presque plus jamais de poissons. Et pourtant, il est toujours sur sa barque à faire chanter les cordes de sa guitare.
Ses yeux ont pris un éclat très profond et très doux, comme si, à l'intérieur de lui-même, il regardait des choses extraordinaires qui ne s'expliquent pas.
Il est souvent plusieurs jours sans revenir à la maison, et quand je lui demande ce qu'il a fait, où il était, il ne répond pas. Il se tourne vers le fleuve, regarde au loin vers l'île verte perdue dans la brume dorée, et fait un geste vague avec son bras, montrant là-bas quelque chose qu'il est seul à voir. Et sa main qui montre s'ouvre et se ferme comme un cœur qui bat, ou comme un papillon qui vole. Je suis triste, je n'ai même plus envie de lui crier après comme autrefois.
Scène 5.
Une année, pendant la saison des pluies, mon père Ramon m'emmena avec lui dans la forêt. Il voulait choisir un arbre pour se façonner un nouveau canoë. Il fallait un arbre particulier, un landi, bien droit, haut, solide, sans défaut. On en trouva beaucoup, mais Ramon était très exigeant. Finalement, il arrêta son choix sur un arbre superbe. Un tronc droit comme une flèche, gros, rond. On en faisait à peine le tour avec nos quatre bras. Pas une blessure, pas une cicatrice. Une écorce lisse et brillante. Ce serait une pirogue magnifique. Avec sa hache, Ramon entailla la base. Au premier coup, tous les oiseaux qui habitaient le feuillage s'enfuirent avec force cris et battement d'ailes. Une heure plus tard, le landi, en tombant, émit une longue plainte, et ses branches et ses feuilles firent un immense fracas en arrivant au sol. Lorsqu'il fut allongé au milieu des fougères, des lianes dorées et des orchidées violettes, il nous parut encore plus majestueux. Soudain, venant du sous-bois le plus sombre, un papillon bleu, un grand morpho aux reflets métalliques, se posa sur le tronc du landi. Il resta un long moment presque immobile, les ailes ouvertes, palpitantes. Ce fut comme si un morceau resplendissant de ciel était tombé au milieu des ténèbres vertes de la forêt.
C'est un bon présage. Ce sera une belle et bonne pirogue. Au travail maintenant, mon garçon. Il y a du bois à tailler et de la sueur à verser avant que ce tronc ne devienne la plus belle barque du Rio Madère.
Scène 6.
La barque fut achevée à la fin du mois de mars. Ramon y mit les dernières touches. Une simple planche de bois blond qu'il encastra près de la poupe et au-dessus, un petit toit de palme pour la pluie et le soleil. Puis il la peignit en bleu, rouge et jaune, comme font les Indiens.
Le ciel sombre se déchira, laissant apparaître de grands morceaux d'azur. Le soleil reprit possession du monde.
Le matin, il montait de la forêt de grandes nappes de vapeur odorantes. Le rio Madeira se retira entre ses berges, les rapides se calmèrent.
Tous les animaux entonnèrent un immense concert de cris, de clameurs, de sifflements. Dans les branches, les perruches vertes se poursuivaient avec des cris pointus et le grand hara bleu, rouge et orange avait du mal à rétablir un peu d'ordre.
Des familles entières de singes hurleurs se disputaient en sautant autour d'un ibis rouge indifférent. Deux cigognes claquaient du bec en se regardant amoureusement.
Tout un peuple de petits rongeurs trottinait en couinant entre les herbes et les racines. Seul, silencieux, le grand anaconda glissait lentement sur un tronc couché et un caïman jacaré, immobile au milieu d'un bras d'eau, les yeux à la surface, semblait dormir. Tous les deux attendaient le bon moment pour s'emparer d'une proie.
Scène 7.
Il est parti, mon Ramon Esteban. Il est parti sur sa pirogue neuve. Il nous a serrés contre lui, l'un après l'autre. Il n'a rien dit, mais il avait sur les lèvres comme une fin ou un début de sourire. Quand il eut mis dans sa pirogue son filet, son harpon, la calebasse du repas et sa guitare, il nous a embrassés tous les trois comme il fait toujours, sans rien dire. Mais il avait dans son regard plus de douceur et d'absence qu'il n'en eut jamais. Puis, il est monté dans sa barque. De sa rame, il a repoussé la rive et nous a tourné le dos.
Quand je lui ai demandé de l'accompagner avec sa vieille pirogue, il a baissé les yeux et fait non avec sa tête. Alors, j'irai pêcher dans les bras d'eau qui s'enfoncent dans la forêt?
Et il est parti, Ramon Esteban Bolivar de Mariposa. Il est parti sans se retourner vers le milieu du fleuve dont on n'aperçoit pas l'autre rive, vers le nord, vers l'île verte là-bas, dans la brume dorée du matin.
Il s'est éloigné de nous, appelé par son destin. Sa silhouette brune rapetissant rapidement à la surface du fleuve. Alors il s'est passé ceci. 10, 20, 100, 1000 papillons bleus se sont approchés de lui, de plus en plus près de lui, jusqu'à le faire disparaître à nos yeux, lui et sa barque. Il n'y eut plus, à la place de Ramon le pêcheur, qu'un cœur palpitant de ciel bleu au ras de l'eau boueuse. Et le nuage de papillons s'est éloigné petit à petit, jusqu'à s'évanouir au loin, emportant le pêcheur et sa pirogue enchantée.
Nous sommes restés sur la rive, à fixer le vide sur le miroir du fleuve, jusqu'à ce que le soleil s'enfonce d'un coup derrière les immenses feuillages pourpres, que dans le ciel éclatent les fanfares du couchant, et que les cendres de la nuit s'éteignent dans l'eau du rio Madeira. Alors, de l'île verte au nord, nous parvint une musique très douce, ni triste ni joyeuse, mais qui résonnait comme un adieu. La guitare de Ramon Esteban José Bolivar de Mariposa.
Scène 8.
Pendant des semaines, des mois et des années, nous l'avons cherché, nous l'avons appelé, nous avons pleuré son absence. Antonio est devenu silencieux comme était son père. Son dos s'est un peu voûté et les jours en passant ont laissé leur écume dans ses cheveux.
Pendant des semaines, des mois, des années, je partais tous les jours à la pêche sur le rio Madeira. Plus que les poissons, je traquais l'ombre de mon père Ramon. Je l'ai appelé dans la brume du soir. Je l'ai cherché près des rives couvertes de lianes et de feuillages, faisant fuir des bandes de perroquets verts ou dérangeant parfois un singe paresseux. J'ai questionné les chasseurs indiens qui me regardaient sans vraiment me comprendre et les garimpéros fous dans leurs grands radeaux rouillés. Ici et là, on me disait avoir vu un homme seul dérivant sur une pirogue. On me disait aussi avoir entendu, certaines nuits, un air de guitare venant on ne sait d'où. Mais jamais je ne le retrouvais. Une fois pourtant, bien des années après, il apparut soudain devant moi, au milieu du fleuve. Il était debout dans sa barque. Il me regardait intensément, avec dans les yeux une expression d'immense souffrance. Il était maigre, vieux, hirsute. Il semblait vouloir me demander quelque chose, mais quand je lui adressais la parole, une nuée de papillons morphos, venus de partout, le déroba à ma vue. Il disparut d'un coup, et je me dis que j'avais rêvé.
Depuis tant de jours, de saisons, d'années, comme il devait souffrir, Ramon Esteban, le pêcheur. Entre fleuve et soleil, entre vie et mort, aérer sur l'eau comme une âme en peine. Qui viendra à son secours pour qu'il puisse enfin se reposer dans la douce nuit éternelle? Qui viendra le chercher, le délivrer du sortilège des papillons? Qui sera après lui l'esprit errant du rio Madeira?
Alors Antonio prit sa hache et s'enfonça dans la forêt. Il abattit un grand landi. Il tailla dedans une belle pirogue qu'il décora de bleu, de jaune et de rouge, avec des jus de fleurs comme font les Indiens.
À la fin de la saison des pluies, il fit glisser sa barque sur la boue du sentier jusque dans le fleuve.
Du bout de sa rame, il repoussa la rive et s'abandonna au courant qui l'entraîna vers l'île verte.
Il prit alors sa guitare, la serra contre lui, appuyé sur son genou.
Et quand sa main courut sur les cordes, les papillons bleus, les grands morphos arrivèrent de partout, l'entourèrent de leur sarabande d'azur, et il disparut à jamais aux yeux du monde des vivants.
Seule sa musique hante toujours les rives boueuses du rio Madeira et les ténèbres vertes de la forêt.
Et les pêcheurs qui la reprennent sur leur guitare ne savent pas qu'un jour ils risquent d'être emportés eux aussi dans la brume dorée du fleuve par un nuage de papillons bleus.